Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. You got that thing that I've
been looking for. Been running around for so long. Now I got you. Bonjour les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode des mecs que je veux ken. Comment allez-vous aujourd'hui? Pas trop froid? Fait froid, hein, c'est chaud. Mon chat Minou, elle est coussinée glacée. Quand je rentre le soir seule, je retrouve Minou et elle a les coussinets glacés et aussi le bout de ses oreilles glacées. Voilà, parce que je suis pauvre, parce que vous n'êtes toujours pas venu voir mon spectacle Tenir debout tous les samedis 20h à la Petite Loge, 2 rue La Bruyère, 75009, métro Saint-Georges ou Pigalle, Réza sur Bière et Duc. Les mecs que je veux ken est un podcast indépendant, voilà, faut que je vous dise ça. On n'est pas hébergé sur Binge Audio, Nouvelles Écoutes ou Magellan. J'ai aucun sponsor, c'est cool, parce que ça me laisse une totale ligne éditoriale, je dis ce que je veux, j'invite qui je veux, l'invité lui aussi est libre de dire ce qu'il veut, mais... Pour toucher un max de monde, avoir encore plus d'écoute, j'ai besoin que les gentils commentaires que vous m'envoyez en MP sur Instagram, et ça me fait grave plaisir, mais j'ai besoin que vous les écriviez dans les avis Apple Podcast. Pour ça, il vous faut un iPhone ou iTunes. Et oui, c'est eux qui ont le monopole, je sais, mais ça me ferait vraiment plaisir de devenir présidente de la République grâce à vous et de forcer Apple à payer ses impôts en France. Et maintenant, je vous laisse écouter cet épisode avec mon ami l'excellent Nicolas Bernot.
Je suis en train de vieillir, je me rends compte que je commence une pensée et qu'elle part. Et je me dis merde, j'espère que j'ai pas une maladie du cerveau parce que.
T'es juste fatigué, je pense.
Maladie du cerveau tout de suite.
Non.
Faut manger des noix de cajou.
Ouais. Mais.
J'aime bien le. Ouais, c'est possible.
Et puis en plus, moi je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais. Tout le monde me dit ouais, oh Rosa, plus forte là. C'est, en fait, j'ai l'impression que tu sais, genre, eh ben, si quelqu'un est pas sympa et que toi ça te choque, c'est juste que bah t'es trop sensible, tu sais.
C'est mais genre, c'est métier qui rentre, ouais, endurcis-toi. Ouais.
Exactement. Faudrait tous être des robots, faudrait tous être des psychopathes en fait. Faudrait ne n'avoir aucun. C'est trop bizarre, quoi.
Il y a un juste milieu, c'est vrai.
Oui,
mais
bien sûr.
Je pense que là, ce dont on parle, c'est pas tant souffrir de ce qui est inhérent au métier, c'est-à-dire faire beaucoup de scènes sans remplir sa salle, enfin voilà, ça c'est inhérent effectivement aux angoisses du métier, de voir un gars qui fait une blague avec le même angle mais un peu mieux et du coup se dire ah merde, faut que je revoie ma copie et tout, mais...
Non mais tu sais, parfois j'ai l'impression qu'en ce moment il y a une mode avec Adèle Haenel où on veut que toutes les actrices soient hyper fortes et résultat, moi en ce moment, je sais plus, hier j'étais à un casting de pub, j'essayais de plus faire de la pub mais là c'était genre vraiment 10 000 boules,
oui, bah oui.
Et rôle quarantaine. Et, et résultat, je devais faire une mère de 40 ans. Et donc j'étais là, et je devais appeler les enfants, les enfants à table. Puis le directeur de casting, c'était un mec totalement coquet. Il me fait, oh, là t'as pas 40 ans. Et j'y crois pas. Je fais, en même temps, j'ai vraiment pas 40 ans. Je lui dis, je viens juste d'avoir 30 ans et je veux bien. Il me fait, ouais, durcis-toi. Donc tu as, hé, les enfants! À table, tu sais, je savais pas où il fallait que je puise cette espèce d'autorité, tu
où
sais.
Où était la dureté.
Tu vois, de ce truc, tu sais, quand on te demande parfois aussi de jouer des rôles de femme flic, tu sais.
Ouais.
Et t'es là, hé, hey, oh.
Tu sais. Ouais, tu essaies de timbrer à fond. Alors tu dis, bah, il y a plein de flics qui ont de l'autorité, qui ont une voix fluette et tout.
Justement, tu vois.
Parce qu'elles ont tout simplement un gun et,
bah,
et un badge,
suffit,
quoi.
Et ça suffit, tu vois. T'as besoin de là, ouais. Enfin, je sais pas, c'est insupportable, quoi. Pareil, la semaine dernière, je passe là pour le coup un casting pour un court-métrage et le maître me dit, le réalisateur qui est là, et en fait, tu sentais que c'était le gars, genre, pour le coup, lui, 40 piges, et qui développe son court-métrage depuis 5 ans.
Ouais,
donc c'est bien, ça y est, il a eu toutes les régions, toutes les subventions, il est content, tu vois. Ça lui a coûté genre juste une maladie. tu vois, il a un ulcère d'avoir mis autant de temps à monter son film. Et, mais résultat, il a eu le temps tellement fantasmé sur les personnages. Donc il me fait, ouais, voilà, ton personnage, mais elle entre comme une bourrasque. Elle entre, c'est une bourrasque.
D'accord, c'est un météorologue. c'est le directeur d'acteur météorologue.
Et tu sais, c'était dans une toute petite salle. Et en plus, les premières phrases étaient très écrites.
Oui.
C'était, en plus, c'était un truc, genre, tu sais, de la comédie française.
Je suis harassé par 3 jours de marche.
c'est ça. Mais il fallait que je le joue comme une bourrasque. Donc tu vois, aujourd'hui, je vais là, tu m'excuses, elle était plus bourrasque, je suis là, genre, je vois pas ce que je peux faire, je peux jouer la bourrasque, tu vois, mais c'était.
Je peux renverser des meubles.
Et donc, résultat, je la jouais super cash. Je sais, eh ben voilà, eh ben, tu sais, j'essayais de. Oh, eh ben, bourrasque, hein, tu vois.
Ouais.
Et puis, il me disait, ouais, mais elle est fan. Donc, j'étais là, ah, machin. Il me fait, ah non, mais non, parce que là, t'es trop. Et j'ai, enfin, en fait, je suis une femme. Donc, ça va avec, hélas, en fait, peut-être, certainement, mais une. Je dirais pas de la douceur, mais une forme de sensibilité. Enfin, ça va avec une voix physique. J'ai des seins. Tu sais, je pense que le mec, il se disait, coupe-toi les seins. Tu sais,
pousse un peu de la masse.
Et tu vois, et t'es là, bah, pardon, quoi, de pas. C'est trop, trop chiant, quoi. De pas. Ou c'est ça, ou c'est l'inverse. Le mec de la pub hier, et donc je fais la merde, allez les enfants à table. Puis là, il me surprend, il me fait. Et là, tu prends la photo, il me dit, prends l'enveloppe devant toi, je la prends. Et donc, il me faisait une petite surprise pendant la scène. Mmh. Ouf, et là, il me dit, c'est une photo de toi, jeune. Et. il me fait. Et là, tu pleures.
Ah, ok.
et donc, moi, j'étais là. Ah, oh, qu'est-ce que j'étais jeune. Mais qu'est-ce que j'étais jeune. C'était l'enfer. Il me dit, et maintenant tu retournes dans la cuisine. Ah bah ton mari reste à table. Toi tu retournes dans la cuisine, ton mari reste à table. Et moi je l'ai genre, c'est une blague, tu vois.
Alors, là, en fait, non.
J'ai genre, ok. oh là là, c'est dur. Tu continues de passer des castings.
Ouais, j'en passe assez peu. Il y a un truc que je trouve un peu criminel, enfin criminel, c'est un grand mot quand même, mais
ce que je trouve un peu antisémite,
direct, qui est quand même responsable, je pense, du génocide de plusieurs ethnies, mais c'est putain, mettez des, je lance un appel au secours, pour les castings importants, pas importants, des rôles et tout, mettez des répétiteurs, des gens, des comédiens, des comédiennes qui savent jouer un minimum, ou qu'on le donne de ça, même dans vos employés, parce que c'est impossible, quoi. C'est, on dirait un exercice de style, on dirait un défi Red Bull, quoi. C'est genre, alors voilà, tu vas devoir jouer sincèrement le fait que tu aimes quelqu'un, qui est en fait quelqu'un derrière un caméscope, qui lit un texte, mais qui le lit plus mal qu'un enfant qui lirait un bouquin, quoi. Mmh. Ou alors, si c'est les conditions, faut pas diriger, alors faut pas dire tu peux le faire plus comme ci ou comme ça.
Clair.
Faut accepter que voilà, on est dans une contrainte. Ouais. T'as un morceau de pain pour nourrir 8 personnes, tu vas pas leur demander de faire de la gastronomie, quoi.
Ouais.
Et là, c'est pareil, il y a un truc où tu dis ouais, un peu plus juste de respect de ça.
C'est
on demande pas d'être plus sympathique ou quoi, mais au moins comprendre que c'est un échange entre deux personnages, il faut que les deux personnages jouent. Un minimum l'intention, l'enjeu, quoi.
Bah, tout est mis en œuvre pour l'échec, t'as l'impression.
Mmh.
Et encore, là, tu vois, là, c'est la mode. Un long métrage, je pense qu'ils n'ont même pas le budget pour une dire de cast.
Mmh.
Je dois envoyer une self-tape et 8 pages à apprendre.
Ah oui, c'est cool. Ouais.
Tu vois, t'es là et puis ils ont dû envoyer ça à 50 nanas. Puis c'est bien parce que la réalisatrice, elle tourne en mars 2022.
Ouais.
Donc comme ça lui fait une petite répète, elle entend son texte, etc. elle est contente, tu vois. C'est ouf, quoi.
Moi, ce qui me fait marrer, c'est des directeurs de casting qui demandent des self-tapes. Et tu dis, mais du coup,
ouais,
tu sers à quoi?
Ouais, elle n'a rien. Rien,
clairement.
Je
vais faire tout le taf de mon côté.
Bah ouais, c'est clair.
Toi, t'as juste à faire un envoi de fichiers.
Bah, c'est ça. Oui, transfert, tu sais. Oui, transfert, tu gères.
Ouais, voilà.
Mais
ouais.
C'est tout, quoi. Oh, c'est l'horreur. Alors, attends.
Parce que, oui, j'ai demandé, oui. L'émission, c'est pas juste on se plaint de notre métier.
Ah non. c'est clair. Bah, après, moi, j'aime bien la plainte. Alors, bonjour, les amis. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Mecs que je veux ken avec Nico Bernot. Bonjour, Nico.
Alors, bonjour. T'aimes pas Nicolas?
Ah, mais je croyais qu'il fallait dire Nico.
Ah non.
Ah, c'est vrai, parce que partout, je vois Nico.
Ouais, parce que les gens aiment bien diminuer les prénoms des gens.
Mais tu préfères Nicolas.
Non, mais de temps en temps, j'aime bien. Non, mais disons que mon nom, c'est Nicolas Bernot. D'accord. Après, quand
donc
on se voit dans la vie...
Tu veux commencer ce podcast par un conflit.
Ouais, direct. Non, mais nous... Enfin, tu peux m'appeler Nico dans la vie.
Ouais.
Mais comme tu me présentais...
D'accord, Nicolas Bernot.
Oh, ouais, c'est un incident diplomatique dès le départ.
Non, pas de souci. Et alors, Nicolas, donc moi, je commence à chaque fois par un...
Mais dis Nico après, parce que je sens que tu vas rajouter le Nicolas.
Nicolas, tu sais, avec un petit regard que les gens peuvent pas voir de... Ouais, ah, sinon, ça. Il va pas être un
Les gens, quand ils vont écouter, ils vont dire, bah, dis donc, super le gars, vachement relou. Flexible, quoi. Ouais.
Hashtag acteur relou.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais ouais, peut-être. Je sais pas.
T'imagines, il se plaint que les gens soient pas sympas avec lui, mais si chaque personne que tu croises
te dit que t'es relou.
Pour citer les gens, pardon, moi c'est pas Nico. Hein,
c'est... c'est ça. L'intro, elle est chiante pour les gens, mais c'est vrai que. Non, en fait, en gros, ça va parce que tu m'appelles Nico quand même. Les gens m'appellent Bernaud plus facilement que Nicolas ou Nico. Et même des gens que je connais très peu. C'est Bernaud chiant. Va venir très vite. Oh mec, appelle pas toute ma descendance comme ça en 5 minutes.
Alors que moi, les gens se risquent pas à m'appeler Bernstein, tu vois.
Ouais, bah
en
ouais.
général, ils réduisent.
Ouais,
tu vois.
Puis ils ont trop peur.
Ouais, ouais, ils sont
mais
là.
Ils peuvent pas t'appeler Burs.
Non. Ils sont là, Madame Rosa. Voilà, ils réduisent tout. Hein. C'est tout de suite ça.
Madame Rosa, j'ai eu 6 mois de tigurelle d'un coup.
C'est clair. Ça me donne tout de suite envie de prendre un accent espagnol et de passer le balai quand on m'appelle comme ça.
Ah non.
Alors.
Un peu de tuberculose.
Oui. Donc j'ai écrit un petit, alors c'est pas vraiment un poème, on va pas dire ça comme ça, un petit texte que je vais te lire. Alors, donc chers auditeurs, pour tout vous dire, pour tout te dire, Nicolas...
Ah non, mais dis Nico, c'est vrai.
Alors, la toute première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai un peu cru qu'on allait coucher ensemble. Parce que, pour situer le contexte à nos auditeurs, auditrices, nos courts-métrages respectifs avaient été sélectionnés dans un festival de catégorie 1 à Fréjus. Bon, ville FN, dommage.
C'est vrai.
Mais, sympa, ils nous avaient offert le train, l'hôtel, et moi, quand je quitte Paris, je retrouve ma libido. Voilà. J'adore les hôtels, j'adore être invitée, j'adore ne pas payer, j'adore être flattée, sélectionnée, voilà, j'adore les compétitions, ça m'émoustille. Et donc normalement, toutes ces conditions réunies sont pour moi plus que favorables au quénage. Mais non, nous avons sympathisé, parlé de nos amis communs, et puis le temps a passé, et nous nous sommes souvent recroisés, et à chaque fois je pense la même chose, mais qu'est-ce qu'il est sympa, Nicolas Bernaud. Charmant, adorable, drôle, sur Netflix, YouTube, sur scène, partout. T'es pire qu'un juif, t'es vraiment partout. Et voilà, j'ai envie que tu nous parles de ton prochain film, Puzzle, qui va bientôt sortir, et que tu nous révèles si toi aussi ta libido décuple quand tu quittes Paris.
Waouh. Oui.
Ouais, bah oui, normal.
Oui, il y a un truc, effectivement, de sensation de liberté, comme un peu ce que t'as décrit, ce côté un peu... Mais je crois qu'il y a un côté un peu, peut-être à cause d'un mini-syndrome de l'imposteur, de se dire, oh là là, il faut en profiter, parce que je pense qu'en fait, en vrai, on ne mérite peut-être pas tout ça, donc
c'est clair.
Comme un truc interdit qui rajoute du coup à ça.
Ouais.
Et de se dire, mais c'est gratuit, alors que ce n'est pas normal que ce soit gratuit.
C'est clair. Mais ouais, mais moi j'ai un syndrome Mad Men. Enfin, je ne sais pas, quand je suis à l'étranger, je me sens dans la peau d'un homme de 57 ans qui va tromper sa femme, tu vois. Je suis là, genre, tu vois, ce qui arrive à Fréjus, reste à Fréjus. Ouais, ouais. Tu vois.
Le pire, c'est quoi, dans une ville FN, ce genre de phrase fait très peur, du coup. Mais,
tu vois. Mais... quand tu tues un juif à Fréjus.
Ce qui reste à Fréjus. Ouais, voilà, mais après, ça me rend pas non plus complètement animal, hein, mais c'est vrai que je peux avoir ce truc de me dire, ah putain, c'est con. C'est vrai que là, je suis dans une belle chambre d'hôtel et
c'est
tout.
C'est con, quoi. Tu te dis, bah, il y a un mini-bar.
Tu vois. Non, mais c'est ça. Mais même, enfin, tu vois, moi qui suis en couple,
il y a
même un truc de se dire, ah putain, c'est con. Parce que même se faire un délire, même en couple, comme ça.
Bah, bien sûr.
Ça change. Moi, je sais que je ne l'ai pas encore fait, mais j'aimerais bien un jour me faire une nuit d'hôtel dans Paris,
ouais.
Mais avec ma nana.
Bah, évidemment.
Tu
évidemment.
Vois, se faire un délire de touriste à Paris. Donc, ouais, complètement. Ouais. J'ai un truc un peu comme ça, ouais. Ah ouais. Forcément.
Bah oui, les hôtels. Mais sinon, il n'y aurait plus d'hôtels, de toute façon. Mm. Je pense que c'est vraiment la différence entre un hôtel et Airbnb. C'est que le Airbnb, mine de rien, tu es chez des gens. Et à ce même... Or, c'est que l'hôtel, il y a forcément... Est-ce qu'il y aurait encore des putes s'il n'y avait plus d'hôtels? Tu vois, je ne sais pas, parce que c'est un truc, tu vois. C'est vraiment, il y a un truc.
Tu le dis presque avec nostalgie, hein. On y a pensé à ça? Ouais, moi, il y a aussi, mais il y a aussi ce truc presque, je pense que aussi lié à nos métiers, à nos sensibilités un peu littéraires, romanesques.
Ouais.
C'est que, par exemple, j'adore les hôtels qui ont été prestigieux et qui le sont un peu moins.
Ouais.
Un peu décati. Et de m'imaginer, de me dire, voilà, c'était quoi les folles nuits ici?
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé justement? Est-ce que là, ça a baisé comme ça?
Ouais.
C'était quoi les bruits de couloir, tu
ouais.
vois, les trucs comme ça?
Ouais, puis tu sais que ça va être nettoyé. Moi, ce que j'adore, c'est quand tu pars le matin et que tu reviens et que tout
c'est,
est, et que c'est magnifique.
C'est
tu vois,
vrai,
le lit, la douceur des draps, le machin, et tout a été effacé. T'as beau avoir fait des pires trucs.
C'est vrai.
C'est, voilà. Et puis, sans jugement, tu sens bien qu'évidemment, c'est pas la.
Mais moi,
c'est...
j'ai un truc bizarre avec ça, c'est
ouais.
que, alors que j'aime pour exactement les mêmes raisons.
Ouais.
Parfois j'ai des scrupules et du coup j'attends vraiment la dernière nuit, donc le dernier matin, pour dire de faire la chambre.
Oh.
Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a un truc, il y a à la fois ce plaisir-là et
ouais.
ce truc de me dire « Ah, il y a quelqu'un qui est rentré dans ce qui est pseudo chez moi pendant
ouais.
le temps d'un séjour. » Et j'ai toujours ce petit truc de me dire « Ah oui, d'accord, ils ont bougé ma chemise à tel endroit.
Ouais.
Ah oui, ah, ouais, ok, d'accord, ouais, bah, tout est en place, mais... »
Ah ouais.
J'aime pas qu'on ait
alors
touché
moi,
à ça.
Alors moi, ça a changé avec le développement d'une conscience écologique. Mais je me souviens
ouais,
que, genre,
aussi,
il y a quelques
ouais.
années, j'étais le mode, les draps tous par terre, tu vois. Genre vraiment, genre je prenais une serviette, je me mouchais, j'ai la sale.
Ah ouais, ouais,
tu
ouais.
Vois
bah ouais, je comprends. Genre... Parce qu'il y a un truc, ouais, comme tu dis, un peu sale gosse de putain, on a le droit, en fait.
Ouais. Mais
on
comme...
paye pour
ouais.
ça, ouais. mais quand on paye pas, justement, pour
encore
ça.
Encore pire, quand tu payes pas, encore pire, t'es là, je me fais offrir. Et puis tu sais, c'est comme quand t'es enfant, tu vas... Je sais pas, je sais pas si on faisait ça, mais quand tu vas et que t'es pas chez toi et que... Bon, bah t'es pas chez toi, tu t'en fous, quoi.
Ah ouais.
Non,
moi, justement, je crois que quand j'étais pas chez moi, je flippais
ouais.
encore plus de faire des trucs.
Oui, cela dit, non, c'est vraiment
non, chez
essayé.
Les autres, quand même, non. Mais,
non.
Mais à l'hôtel, j'ai un plaisir de pacha qui
ouais.
l'est pas encore, en fait.
Ouais, ouais, ouais.
Je
ouais.
me prends le petit déjeuner au lit.
Moi, je m'habitue vite au luxe. Et au contraire,
okay.
c'est juste... Et par contre, quand je retourne dans mon appart à Bagnolet, j'ai une tristesse qui m'envahit. Immense.
Bah, peut-être moi c'est pour avoir un palier moins violent,
ouais, ouais,
un truc moins
ouais,
violent.
Tu te prépares au
retour. Je continue à me rappeler que voilà, t'inquiète, ça va être citrouille bientôt. Et encore, j'exagère, c'est pas citrouille non plus ma
ouais.
vraie vie, mais
oui.
mais il y a un truc, je sais pas, ouais, c'est, mais je suis peut-être con, hein, parce que du coup, je profite pas pleinement aussi
non,
du truc.
Non, c'est bien. Je pense que t'as les pieds sur terre, t'es sain. Moi, c'est un truc un petit peu bizarre que j'ai. Moi, je pense que c'est, j'ai fait trop d'années de cours de théâtre à jouer des
après,
rêves.
Après, je râle.
Tu vois.
Après,
ah,
je râle.
Ah ouais, tu râles.
C'est que j'appelle la réception. Je dis, excusez-moi. J'ai quand même un truc. Oui, oui, j'ai quand même un truc. Et après, on m'en met un petit mot sur une carte de visite avec des fruits et on s'excuse et tout.
Ah,
donc de
bien,
temps
ça.
En temps, je me dis, ah là, je me suis pas laissé démonter. Je peux te dire.
Ça
a rué dans les brancards, mais c'est tout. Et après, en fait, quand je vois les gens se plier en 18, et comme tu dis, genre, voilà, j'espère que ça a été, et que je me dis, oh, merde, en fait, je suis en train de fragiliser peut-être l'emploi de quelqu'un, parce que s'il y a trop
oui,
de râleries...
Oui, mais tu peux pas tout le temps penser à ça, mais...
Ouais, mais j'y pense parce que c'est éphémère.
Mais parfois, c'est too much. C'est-à-dire que moi, parfois, je vois, genre, si j'ai des jours où je suis un peu hypersensible, tu vois, à tout ce que...
Ouais,
quand même,
voilà,
la
ouais.
vie, c'est dur. Genre, je vais rentrer dans un magasin, puis genre, le videur, je vais faire bonjour. Puis ça va être too much. En ce temps, je vais dire au revoir, bonne journée, bon courage, tu vois. Le mec est...
C'est compliqué parce que parfois, dans cette hypersensibilité-là, on est hyper condescendant sans s'en rendre compte.
Ouais.
T'sais, on va dire bon courage à quelqu'un.
Oui. Alors,
et du coup, lui va dire, bah, ça va,
ouais,
je fais un métier
ouais,
normal.
Ouais, ouais.
Et
bon
du coup,
courage.
On va être là, genre...
Ouais.
Oui.
Ah oui,
mais au fond de toi, je sais.
Oui,
que...
oui. Ah, ça, c'est terrible, bon courage.
Bah ouais.
Moi, je supporte pas après un plateau, tu sais. D'humour.
Ah oui, c'est vrai,
les gens qui
ça.
Tu vois, qui disaient bon courage. T'es là, mais putain, c'est l'enfer.
Ça, après, c'est maladroit. C'est juste parce que les gens disent c'est pas facile le métier
ah ouais.
d'artiste, tu vois.
Bah ouais, mais.
Mais pour des gens qui font des métiers, des métiers, quoi.
Ouais,
c'est vrai
ouais.
que parfois on dit bon courage et en fait c'est insultant pour la personne. Je le faisais souvent au livreur, mais parce que j'ai été livreur Pizza Hut.
Ouais.
Mais ce bon courage, quand toi tu refermes la porte de ton appart et que lui il repart dans le froid,
ouais, ouais, ouais.
c'est lui rappeler vraiment qu'il a besoin de courage parce que ce boulot est merdique.
Ouais.
Alors que si juste tu lui dis bah merci, bonne soirée, c'est cool, il se dit bon ça va, c'est pas trop chiant ce que je fais au final. Mais
bon. Non, c'est sûr, c'est vrai que en fait c'est oui, c'est juste de l'humanité, du respect. C'est vrai, moi quand j'étais. On te traite tellement souvent comme un chien que quand tu. En retour, ça paraît logique. Mais je sais plus, même la dernière fois, je suis sortie en boîte de nuit samedi dernier et au videur, j'ai fait bonsoir. Et genre, j'ai mes copines qui m'ont dit attends, tais-toi, venez derrière. Parce qu'en fait,
ah oui.
ouais, c'était en mode il fallait. Toutes les meufs, même les mecs, tous faisaient tous semblant d'avoir des têtes de connard.
Ouais, pour dire genre, moi je suis blasée, c'est normal que je rentre, j'ai pas besoin de te charmer.
Ouais,
quoi.
Ouais, je vais pas commencer à dire bonjour à tout le monde, tu vois. Mais en plus, c'est beau aussi les rapports de civilité avec des inconnus. Je me souviens à un moment, j'habitais à Londres. Et j'étais partie parce que j'avais raté pour la deuxième fois le conservatoire au troisième tour, tu vois. Et donc j'étais là, bon bah je crois que la France ne veut pas de moi. J'ai un petit peu élargi le problème. Et je m'étais dit, je vais aller tenter ma chance chez les anglo-saxons.
À la RADA.
Ouais, donc résultat, donc au départ, j'étais pas dans une école. Enfin, j'étais officiellement en deuxième année de classe, mais je payais un coach de langue hyper cher pour améliorer mon anglais. Mm-hmm. Résultat, je travaillais comme une malade dans une bijouterie. Et j'étais vraiment qu'affectif, j'étais loin de tous mes amis, donc clairement j'essayais de devenir amie avec chaque cliente. Et il y avait plein de clientes qui étaient elles aussi en manque affectif, tu vois, clairement, qui étaient des riches, qui n'avaient rien à faire de leur journée, donc on passait des heures à tripoter des bijoux, enfin c'était...
Ouais.
Mais en fait, au tout début, en fait, avant de trouver ce job dans la bijouterie, je cherchais du travail, et j'en avais vraiment besoin. Et je m'étais brûlé le menton, en fait, comme une conne, parce que je n'avais pas compris le concept du thermos. J'étais là, tu vois, je l'avais ouvert dans le métro, et j'étais là genre, oh bah j'ai fait 20 minutes à pied, je pense que ça a eu le temps de refroidir. Et boum, il y avait eu un truc de... Et j'avais eu le menton totalement brûlé, et vraiment, et il y avait eu du feu. Et c'est là que je me suis rendu compte que Londres, c'est pire que Paris. Parce qu'à Paris, les gens réagissent un peu. Là, les gens étaient vraiment tous devant The Guardian, rien à branler.
Ah,
et moi, il y avait vraiment une fumée de dragon qui sortait, et la peau était tout de suite, la peau avait commencé à partir, tu vois.
Ah,
et moi, j'avais explosé en larmes, tu vois, j'étais loin de ma mère, tu vois, j'étais de la j'avais commencé à chialer dans le métro, tout le monde s'en branlait, et résultat, j'ai dû faire toute ma recherche de job avec une tête de crippled, tu vois. Et donc résultat, le pire, c'est que pour essayer de, je mettais de la vaseline pour que ça cicatrise, mais j'avais tout le temps faim, donc je prenais des pains au chocolat,
donc
j'avais
des
tout
miettes.
Le temps. Et finalement, une fois, je sais plus, je voulais pas rentrer chez moi, mais j'avais genre fini ma dépose de CV. Je m'étais fait arnaquer, je sais pas combien de fois, par des restos qui m'avaient dit genre pour faire une tournée d'essai. En fait, c'était pas des journées d'essai, c'était des journées où ils te faisaient bosser gratos et ils te rappelaient jamais.
Ah là là, ouais,
j'étais
d'accord.
Vraiment. Et donc, je suis allée dans un truc de maquillage et il y a une. Pour m'acheter un maquillage, tu vois. Et donc, il y avait une vendeuse qui était trop gentille. Et en fait, tout le monde avait été très agressif. Et donc, j'étais pas habituée à être là, Hi, my love, what do you want?
Ouais, ouais.
Et tu vois, et j'étais là, genre, maybe some makeup, because you can see my chin is very hard. Et donc, elle fait, OK. Et donc, elle avait commencé à me nettoyer la peau et à mettre de la crème. Ouais. J'étais assise et c'était très bizarre cette scène parce que c'était genre un essayage de produits dans un immense truc où il y avait plein de gens qui passaient.
Ouais. Mais c'était réconfortant.
Mais elle était tellement douce
ouais.
que je me suis mise à fermer les yeux à pleurer, tu vois. Genre vraiment, il y avait tout le truc qui partait et elle était là et je sais pas comment dire, elle devait être, genre, je devais pas être la première personne de la journée qui chiale dans son fauteuil. Elle commençait à me mettre du fond de teint, etc. Puis ça marchait pas trop parce qu'à force, j'avais le visage tout rouge et tout, puis elle m'avait mis un peu de truc. Mais c'était hyper beau quoi,
cet échange. De temps en temps, il y a des accès comme ça, mais comme tu disais au tout début, sur les postures, les personnages qu'on se sent obligé d'incarner dans l'espace urbain, dans la jungle un peu urbaine, et puis d'un seul coup, il y a des gens qui font toi aussi, t'es du même côté,
ouais.
Ça fait du bien de temps en temps de se le dire,
ouais.
Et après, on repart dans nos vies, mais c'est vrai que c'est agréable, surtout quand c'est pas forcément dans une situation de danger et de peur collective.
Ouais.
Parce que parfois tu dis, putain, faut vraiment qu'on en arrive là pour avoir un peu de solidarité entre nous, c'est un peu dommage.
Ouais, c'est clair, s'il faut attendre le Bataclan pour que quelqu'un te tende la main, tu vois.
Ouais, c'est ça, exactement. Mais après, il y a quand même un truc, je constate ça d'un seul coup, une reconnaissance de la souffrance de l'autre. Oui, mais c'est une anecdote un peu glauque, mais que je cite parce qu'elle est... Quand j'ai perdu mon père, un jour, j'appelle un Uber, machin, je me fais planter au bout de 12 minutes d'attente. Je devais aller faire un truc vraiment, vraiment le truc. Je le souhaite à personne dans son agenda, c'est aller à la morgue, tu vois.
Je crois que je me suis dit avec sa main prostate.
Non. D'aller voir le spectacle. C'est un truc horrible. Mais... En gros, donc vraiment, le truc, c'est un peu cauchemardesque, c'est presque dans les romans policiers. Donc, tu as l'impression à ce moment-là que tu es le seul à vivre ce drame-là au monde, que personne ne peut te comprendre, que la personne qui t'empêche d'avancer plus vite sur le trottoir est vraiment une égoïste et tout. Et donc, je suis hors de moi parce que je suis en retard à un rendez-vous où t'as pas envie d'aller de toute façon. Et donc, le deuxième Uber arrive et je suis chargé, galvanisé de colère, de ressentiment et tout. Et je lui dis tout. Je dis, ça suffit parce que voilà, ce que vous comprenez aujourd'hui, c'est pas le jour, parce que vous savez ce que je vais faire et machin. Je sors le truc et tout. Et le monsieur commence à rouler et C'était un monsieur d'une soixantaine d'années, assez placide, avec des petites rides assez jolies, parce que je voyais surtout son regard dans le rétroviseur, en vérité. Et il avait un regard très doux, comme ça. C'était un noir, je ne sais pas de quelle origine, mais un français en tout cas. Cette phrase est horrible, sans son contexte. Non, mais c'est pour décrire visuellement pour les gens qui l'écoutent seulement. En gros, voilà, il avait un très joli regard, comme ça, très doux. Et il me laisse déverser comme ça ma colère, ma rage, mon truc. Et puis il y a un petit silence, et il me dit « Ah, mais vous savez, monsieur, je vous comprends très bien. Il y a une semaine, j'ai perdu ma femme et mes enfants dans un accident de voiture. »
Oh mon Dieu.
Et
oh
du coup, Dieu. J'ai pris comme un tomahawk dans la poitrine, comme ça. Et il continuait de rouler, donc il y a eu un silence, et je me suis platement excusé. Mais automatiquement, je lui dis « Je suis sincèrement désolé, monsieur. » Et après, on n'a plus dit un mot, jusqu'à l'Institut médico-légal. Et il m'a déposé. Et puis je me suis dit, bah voilà, c'est intéressant cette anecdote-là, parce que en fait, pendant ce trajet, on a certainement klaxonné, croisé, bousculé des gens qui vivaient des tragédies, des drames, et qui prenaient sur eux, parce que la civilisation, parce que la politesse, parce que si on expose tous en même temps, on est foutu. Et donc, par moments, je me dis, putain, c'est dommage en fait qu'on soit obligé un peu d'être dans des situations comme ça pour se le rappeler. Et je remercie en fait les humains qui restent encore assez humains pour avoir de la place pour faire ça. Le mec aurait pu m'envoyer chier, il aurait pu me dire mais ça va pas ou quoi de me parler comme ça. Et le gars, boum, me donne un peu de son humanité pour me dire t'inquiète pas, t'es pas tout seul et je te comprends et tout quoi. Donc il y a plein de moments assez jolis, malheureusement je pense c'est difficile de les voir. Et puis quand on est une nana c'est encore plus difficile de les voir parce que bon, le harcèlement de rue, toutes ces choses là mais c'est vrai que quand j'ai des occasions sans être justement pétri par mon nombrilisme ou par mes trucs, d'être même en façade un peu poli, un peu socialement comme ça, dans le bon sens du poil, j'essaie de le faire au max. Parce que putain, sinon, c'est comme dans le boulot, quand il y en a un qui joue plus la règle de on se parle normalement,
mais ça part en quéquette.
Ça décupe des trucs où t'as des visions de faits divers. Tu vois.
C'est clair, et c'est vrai que c'est parfois, c'est pas grave d'être la bonne poire. Mais c'est compliqué. C'est compliqué de gérer, moi je trouve, tu vois, d'apprendre, de savoir quand dire non, de savoir de sa propre autorité. Alors peut-être encore plus en tant que nana, tu vois.
Parce qu'elle est plus remise en question que les hommes.
Ouais, tu vois, ouais, souvent.
Vous avez plus à prouver, donc c'est plus épuisant pour vous.
Ouais, voilà. Donc résultat... Et c'est pour ça qu'il y a tellement de femmes de pouvoir qui sont des grosses connasses, mais c'est parce que finalement elles doivent démultiplier. Et résultat, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus cool quand tu vois une femme de pouvoir méga chill, tu vois, qui a confiance. C'est très rare.
Ouais, c'est très rare.
C'est très rare.
C'est très très rare, et c'est vrai que c'est ce qu'on appelle les femmes phallocrates. En gros, il n'y a aucune raison que les femmes, sous prétexte qu'elles accèdent au pouvoir et parce qu'elles ont des ovaires plutôt que des couilles, soient d'un seul coup des exemples, des exemples d'humanité incroyables.
Oui.
C'est des environnements qui créent des individus comme ça, quel que soit le sexe. Donc c'est encore clair. Plus révoltant comme dans un
c'est
monde féroce.
C'est pour ça qu'Hillary Clinton aurait gagné, franchement.
Mais par exemple, si tu prends un milieu professionnel... où il y a une espèce de schéma qui se répète comme ça dans le milieu de la cuisine, de la gastronomie. Dans une brigade de cuisine, moi j'ai un pote qui était commis de cuisine, puis ensuite chef pâtissier, et qui a pété un plomb, qui est parti, parce qu'il a beaucoup souffert de ça. C'est-à-dire, les chefs, c'est pas comme dans Top Chef, et encore on peut voir un peu ça, c'est ce côté très protocolaire, militaire, cette dureté du chef qui va casser les commis, qui va les défoncer. Et l'argument, c'est de dire... Bah tu te fais les dents. Parce que moi quand j'étais commis, moi aussi j'en ai pris plein la gueule par un tyran. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et t'en as qui cassent ça, qui disent non, oulala. Comme les profs de théâtre, qui pensent qu'il n'y a que dans la souffrance le syndrome Whiplash, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que Whiplash, c'est un film que j'ai adoré et que j'ai détesté en même temps. C'est que j'ai dit, la performance, la mise en scène, le truc incroyable, mais le propos, ça dit que, si.
C'est comme ça que faut c'est bien bon.
Derrière chaque génie, il y a un fils de pute qui les a martyrisés. Tu fais, ouais, mais non.
Non.
Non, en fait, franchement, on peut aussi trouver d'autres exemples.
Ouais, c'est clair.
Et peut-être, effectivement, peut-être qu'il y a une part de souffrance qui alimente notre génie ou notre sensibilité.
En tout cas, tu n'es pas obligé de la reverser sur l'autre. Tu peux trop être névrosé et être en souffrance.
Exactement.
Tu n'es pas obligé de sadifier les autres et de répandre ta perversité. Ouais.
D'être très à l'écoute de sa souffrance et d'en faire quelque chose de beau ou de créatif, bien sûr. Et souvent, effectivement, les personnes qui ont beaucoup souffert, mais d'être cassé par un individu, ça, je ne crois pas à ça.
Mais c'est très compliqué de savoir répondre aussi à l'agression. Parce que bon, parfois, il ne faut pas répondre. Hein, tu vois, je ne sais plus. Hier soir encore, alors à Bagnolet, je ne me fais jamais emmerder, mais hier soir, je ne sais plus, un mec qui un peu me suivait en parlant, qui était bourré, rien de mal, mais bon, tu ne réponds pas, tu avances, etc. Mais parfois, c'est compliqué aussi. Tu sais, les gens qui te vannent, on en parlait, les gens qui t'envoient un pic ou... Moi, ça m'est arrivé cet été. En fait, je suis partie en vacances et en fait, en famille, il y avait que des jeunes qui étaient tous très hipsters et très agressifs comme ça. Ils étaient tous en mode, attends, on est en Bretagne, on fume des joints, on va même pas se baigner, pardon, mais fais chier, fais chier. et résultat, moi, j'étais plutôt, c'est quand même super. Enfin, moi, je suis fin, tu vois.
T'es avec ton ciré.
Ouais, non,
on va faire des belles balades.
Ouais, grave. Moi, en plus, j'ai que des podcasts américains dans les oreilles d'actrices qui sont toujours en mode gorgeous, amazing time. Donc, j'arrive un peu comme ça dans ma vibe, quoi, en mode salut. Et personne n'était comme ça. Et en plus, et même, j'avais pris que un petit peu des tenues un peu trop habillées. Donc, j'avais que des robes avec des petits talons, tu vois. Et tout le monde était en mode basket, rien à branler et tout. Et en fait, j'ai pas du tout. J'ai été un peu vicose en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient tous en mode vachement à se vanner les uns les autres, machin, etc. Et moi, j'étais en mode. J'avais peur de, tu vois, j'avais peur. Puis je me sentais vieille et en même temps, Et donc, je m'isolais vachement. Puis, tu vois, par exemple.
Avec une camomille, un petit ouvrage de broderie et puis un roman de Yasoda.
Non, mais, et tu vois, et ils étaient très. Tu sais, parce que je cuisine pas, et donc ils étaient là, et à un moment j'ai voulu cuisiner, surtout pas, je sais plus, j'avais mis un avocat à la salade. Rosa, on fait une tomate mozza. D'où t'as vu qu'on mettait de l'avocat dans la tomate mozza? Et moi j'étais genre, en fait, il y a un moment, genre, je vais me transformer, tu vas pas comprendre, et je vais te tuer. En fait. Tu vois, je vais prendre un ustensile de cuisine, et vraiment, je vais commettre un acte de violence irréparable, tu vois. Et ça aura eu lieu à l'île aux Moines en 2019, tu vois. Mais comme tu parlais d'une psychopathe. Et on pourra
faire un très bon fait d'entrée accusée, tu vois.
J'ai pas de demi-mesure, tu vois. Donc je vais mettre l'avocat dans la salade, et tu vas pas me parler comme ça. Ouais. Mais sur le moment, il y a juste eu un truc de genre. De vicose, quoi, l'arme. Enfin, tu vois, Et c'est très difficile de savoir de là, wow, d'avoir l'autorité, de répondre à ceux qui t'agressent. Enfin, moi, je trouve ça très compliqué, quoi, de. Tu vois, de savoir. Les gens sont pas doux, quoi, parfois.
Parfois, ils sont pas doux, mais je pense qu'après, il faut aussi dompter ses propres sensibilités là-dessus, parce que tout le monde peut pas, et moi, je le fais beaucoup, et mes amis. Sont épuisés parfois par ça parce que je suis très sensible et donc parfois très susceptible et parfois j'explique, je dis mais non, mais parce que dans la sémantique, dans le machin,
Nicolas,
et
pas gens... Nico.
non mais ça c'est juste pour le blaze, sinon entre potes appelez-moi Nico bien sûr, appelle-moi Nico avec plaisir, mais le truc c'est d'un seul coup tu peux pas demander aux gens d'être sur le même diapason que toi en termes de sensibilité, c'est très compliqué, sauf les gens qui te connaissent et qui devraient en connaissance de cause savoir, tu vois.
Moi je trouve justement que les vrais intellos sont en général beaucoup moins condescendants que les gens qui genre ont un petit poste de troisième assistant à la mise en scène sur ce film.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Parce qu'en fait, papa connaît la productrice, mais j'ai arrêté à 17 ans. Et qui sont là, désolé, la bagnole, je l'avais commandée pour 17h30 et 35, tu te fous de ma gueule.
Oui, c'est ça. Puis il y a toujours ce truc aussi de certains métiers qui te font croire que tu sauves des vies.
Ouais.
Et que du coup, tu as sur les épaules une responsabilité immense. Alors qu'au final, pas tant que ça.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est vrai que paradoxalement, les gens, en tout cas très instruits,
qui aient
fait des études ou pas, ont surtout une gymnastique d'ouverture d'esprit, de curiosité qui fait que ils vont. Alors parfois trop, c'est-à-dire que parfois t'as revu aussi qui se lâchent, qui vannent un peu, tu vois.
Oui, c'est vrai qu'ils sont peut-être parfois un peu coincés, mais ils sont plus modestes, plus ils sont éduqués. Tu vois, je sais plus, il y avait une nana qui m'avait contactée, que j'avais rencontrée à un dîner, parce qu'elle avait son oral de doctorat, de machin. La nana, 24 ans, elle avait déjà la grecque de philo, et donc elle faisait un truc sur Julius, Just, Nassius, de je sais pas quoi. Donc elle m'envoie son truc à lire pour que je lui fasse réciter. Je me dis, tu vois, et t'es ramenée à ta propre débilité, tu vois, vraiment, parce que de trucs qui veut. Et puis tu te dis, putain, et la connaissance. Et puis, Et quand je lui faisais réciter, et en fait, elle était toute... Et c'est moi qui lui disais, ah bah non, maintenant, sois dur, ouais, etc. Vas-y, ouais. Et ça me faisait bien pour une fois d'être... Mais, et tu vois, et c'est vrai qu'il y avait ce truc un peu des gens qui étudient de... en fait, on dit pas linéaire, mais qui est agréable parfois, en fait,
oui.
Tu vois.
Oui, complètement. Après, c'est vrai qu'il y a un truc aussi presque primitif quand tu parles du groupe et tout.
Ouais.
C'est qu'il faut avoir de l'esprit d'à propos.
Ouais.
Faut avoir
groupe.
De la répartie.
Le groupe.
Faut se marrer, faut être le mec qui se marre, mais qui est stylé, qui est capable d'être assez solitaire pour qu'on voit qu'il est autonome et tout.
Ouais.
Et moi, c'est vrai que parfois, ça peut me paralyser un peu.
Ouais.
Et on se le dit parfois avec des camarades plus comédiens que comiques, entre guillemets.
Ouais.
Parfois, quand t'es entouré que de potes comiques ou en tout cas humoristes, s'il y a un grand concours de celui qui va être le plus drôle, mais qui est tacite, qui est même pas un truc et tout, et parfois tu dis waouh, en fait on s'est parlé de rien, on a juste essayé d'utiliser le dernier mot de l'autre pour en faire une vanne, et personne s'est écouté, personne n'a partagé un moment, personne n'a rien fait ensemble. Mais c'est toujours des environnements. Je pense qu'il y a des gens dont on a parlé en off, qu'on a trouvé par moments un peu désagréables ou avec une stratégie un peu grossière. Et en fait, je pense que quand ils rentrent chez eux, ils font « putain, j'en ai marre d'être ça, mais j'ai l'impression que si je suis pas ça, je me fais bouffer ».
Tu crois qu'ils se rendent compte ?
Je pense qu'il y en a qui se rendent compte. Parce que quand, par contre, ces personnes-là, à un moment donné, tu les mets face à ce comportement-là, mais peu de gens le font, c'est qui tout double. C'est soit la personne va dire « mais t'es vraiment un con, je t'emmerde, je me remets pas en question », soit c'est putain, bah ouais, t'as raison, je suis désolé. Mais on donne même pas l'occasion parfois aux gens de pouvoir s'excuser. C'est-à-dire qu'on dit, bah ça a été un connard, et on le laisse dans sa merde. On lui redonne jamais l'occasion à un moment donné de pouvoir prouver peut-être que c'était pas le bon moment ou un truc. Je dis pas qu'on a toujours la force de le faire. Je dis juste que je me dis, il faut. Et puis selon les âges et tout, tu vois, on parlait d'une personne un peu jeune tout à l'heure, je me suis dit, il faut que je fasse gaffe parce que je parle d'une personne qui a, je sais pas, 21 ans, 22 ans. Je peux pas figer mon jugement sur une personne qui, dans 5 ans, sera peut-être une autre personne complètement. On est passé par des phases, je pense qu'on se recroiserait à 17 ans ou à 20 ans ou à 25 ans. Il y a des moments où on passera un bon moment à prendre un café, il y a des moments où on fera, alors attends, je vais te mettre une tarte dans la gueule parce que vraiment, t'es insupportable, tu vois. Et je me dis. Mais on n'a pas tous le luxe, pour le coup, dans nos vies. Nous, on a un peu ce luxe-là, intellectuel, de pouvoir se poser et réfléchir à cette condition-là. Mais quand tu trimes, quand tu bosses, quand t'es... t'as pas le temps.
Bah ouais. Et attends, et là, je me réjouis trop. Donc là, Nico, pour expliquer un peu aux gens qui nous écoutent, là, il y a ton film qui sort bientôt, Puzzle.
Ouais.
Alors,
vas-y.
Vas-y, donc, c'est un long-métrage ?
Non, c'est pas un long-métrage.
D'accord.
C'est un court-métrage de 15 minutes. Un long métrage, Inch'Allah, j'espère un jour, mais c'est ma deuxième réalisation, mais je la considère comme ma première, parce que c'est celle dans laquelle je me suis le plus investi, donc je l'ai écrit.
Première, c'était celle de Fréjus.
Non, j'ai co-créé l'univers, mais le pilote que tu as vu de Oracle, ça c'est une collaboration, mais je ne l'ai pas mis en scène.
D'accord.
J'ai joué dedans et j'ai co-créé le concept. Mais là, mon premier en tant que réalisateur-auteur, c'était Papillon, que j'ai sorti sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle donc Papillon, ce que je viens de dire. Salut, bonsoir. C'est un court-métrage.
Je t'ai stalké hier soir et je ne suis pas allé voir le bon truc.
Eh ben super, génial. Donc Papillon,
j'ai
ça
c'était... J'ai vu ta bande démo. J'ai vu quand t'embrasses...
quand j'embrasse Valentin, Mais ça, c'était détestable. C'est le premier que j'ai écrit pour Golden Moustache. Et ce qui me vaut d'ailleurs d'avoir pas mal de succès dans la communauté LGBT internationale.
Ah ouais, parce qu'en tout cas, tu joues bien, on se dit, il aime ça, quoi.
Ouais, non, mais c'est
mais
juste...
Mais tu joues bien, mais après, peut-être que t'aimes bien embrasser homme ou femme
pas spécialement. D'ailleurs, c'est toujours un truc qui m'effraie beaucoup, homme ou femme, c'est même pas une question de mon orientation sexuelle, je suis assez pudique.
Ouais.
Et embrasser, je trouve ça éminemment sexuel, plus même que faire une chorégraphie de baise dans une scène de film.
C'est clair.
Et c'est très érotique et c'est très intime pour moi d'embrasser quelqu'un. Donc, ça me met pas plus à l'aise avec un mec qu'avec une nana ou en général.
Mais en même temps, c'est très beau. Hein.
Mais
c'est
voilà,
tellement
c'est que
cinématographique aussi.
C'est ça, voilà.
C'est le baiser dans l'ascenseur et tout.
Ça exprime beaucoup plus que des scènes de baise qui sont rarement justifiées, mais. La manière dont des gens de s'embrasser ou de ne pas s'embrasser, je trouve, révèle énormément de leur intimité, de leur sexualité, de leur sensualité.
Ouais, c'est clair.
Tu sais si un couple s'aime très fort dans leur manière juste de se caresser la main, de se regarder et de s'embrasser.
Ouais.
Après, le sexe, on peut prendre des rôles. On peut être dans des mises en scène.
Tu vois qu'un couple baisse plus quand ils se font le petit... C'est le petit smack
ce smack administratif là,
Ah, oh là là, tu te dis ah,
celui-là
oh,
il est
putain,
dur.
Enfin, il baise mais en tout cas, il y a plus de
ça doit arriver de temps en temps qu'il se laisse déborder par un petit soubresaut mais on est plus dans le tourbillon mais donc puzzle, donc court-métrage, 15 minutes. Donc Papillon, c'était un petit court-métrage de 5 minutes, il y avait deux séquences, il y avait pas énormément de plans mais je me suis un peu confronté à l'exercice. Et là, Puzzle, c'est beaucoup plus ambitieux. 5 jours de tournage, 27 séquences. Enfin, c'était un peu pharaonique par rapport à mon expérience de réalisateur. Donc, c'était un gros défi. C'est un de mes projets les plus perso. Donc, voilà, je ne sais pas si ça plaira aux gens. En vérité, j'espère que ça leur plaira et que ça leur plaira pas.
Tu peux nous pitcher ?
Ouais, je ne sais pas si je pitche bien ce truc-là. En gros, ça s'appelle donc Puzzle. C'est l'histoire d'Étienne Lantier, un homme d'une petite quarantaine d'années. Qui est un peu dans le déni de la perte de sa femme et qui se réfugie dans le rituel du quotidien, dans les petites manies du quotidien. Et donc il se lève tous les jours à la même heure, il se couche tous les jours à la même heure, et puis un jour qu'il va prendre conscience qu'il s'est menti, il va plus bouger de chez lui pendant des mois, et puis un jour ça va sonner à sa porte, il va ouvrir, il n'y a personne, et il va trouver une boîte blanche sur le palier, et c'est un puzzle. Et donc c'est l'histoire d'un homme détruit par le deuil de sa femme, qui va se reconstruire littéralement grâce à un puzzle.
Génial, ça me fait un peu penser à la série de Ricky Gervais aussi.
Ah, alors
Afterlife. Laquelle...
Ah, ouais, je l'ai pas vu encore celui-là. Là, quand j'ai fait le Kiss Kiss Bang Bang pour Puzzle, j'ai réussi à réunir 10 000 euros.
C'est énorme.
Ce qui est énorme, surtout que c'était en plein dans l'incendie de Notre-Dame. Enfin, vraiment, les gens disaient, bah, tu veux pas l'appeler Notre-Dame, ton projet, toi. Donc, je me faisais mes charrier de tous les côtés. Et j'ai perdu le fil, tu vois, comme un vieux.
Puis les gens n'aiment pas que tu leur demandes de l'argent. Putain, moi, quand j'ai fait des crowdfunding,
remarques. Alors, 10 000 balles. Et les gens se disent, eh ben putain, avec 10 000 balles, s'il ne fait pas une pure tuerie, et tu dis, en fait, vous ne vous rendez même pas compte, mais 10 000 balles, c'est un quart du budget.
Bien sûr,
c'est un quart du budget si on paye les gens. Si... Mais tu ne peux pas leur expliquer tout ça à chaque fois. Tu ne peux pas, à chaque fois que tu croises quelqu'un qui dit... Là, il n'y a pas longtemps, on a croisé des gilets jaunes, on était à une terrasse, vraiment sortie de spectacle, il était 2h du mat, on mangeait un croque-monsieur.
Ouais, ok.
Frites.
Ouais, vous avez le droit.
Alors, ok, on est dans un restaurant en terrasse à Saint-Michel à 3h du matin. Ok. Et je suis avec Dedo, on est quelques camarades et tout. Et il y a un gilet jaune qui vient nous voir. Et, moi, j'ai rien du tout contre les gilets jaunes. Il y a des formes parfois d'exprimer leur colère qui.
Quand ils arrachent les voiles des femmes, parfois, non, tu peux dire qu'ils sont un peu forts.
Mais je me dis qu'il y a aussi. On donne beaucoup la parole à ces minorités-là dans les gilets jaunes et tout. Mais il y a quand même un truc un peu agressif, quoi, tu vois. Et genre, je vois arriver un gars, ils étaient 3-4 gars derrière la vitre à nous regarder. Et je sentais qu'il y avait un côté genre, oh putain, c'est lui. Mais attends, oh bah merde alors. Et donc, il y avait un truc comme ça, donc je me dis, ok, bon, c'est bon, ils nous ont reconnus. C'est cool, c'est flatteur, et à la fois gênant, parce qu'on avait l'impression vraiment d'être des poissons dans un aquarium.
Ouais.
Ils font le tour, et là, je les vois, ils se parlent, ils sont en conciliabule, machin, et ils commencent à rouler des espèces de tracts comme des matraques.
Oh mon Dieu.
Et je vois arriver 3 lascars comme ça, quand même, en gilet jaune. Et je me dis, bon, je vais finir quand même mon croque-madame, parce que j'ai besoin de protéines, mais je suis pas tranquille, quoi. Et ils débarquent comme ça, et là, il y a le plus costaud des 3 qui dit, bonjour, bon, bah voilà, on vous a reconnu. On va pas vous déranger, parce qu'on sait que dans votre milieu de showbiz, de le saltimbanque et de pute et de paillettes, mais vraiment, du coup, les gilets jaunes, ça vous passe peut-être au-dessus de la tête, voilà, ça c'est notre tract, on tient le rond-point qui est à côté, voilà, vous avez vu, on n'est pas des méchants, on n'est pas des... Et nous, on était là, mais ouais mec, Dedo, il habite en banlieue dans le 93, enfin voilà, on est... Et je suis, ok, j'ai compris, ils nous prêtent des vies, en fait, parce que comme on est artiste, on est forcément bourgeois. Et d'une certaine manière, oui, on est bourgeois intellectuellement.
Ouais.
Parce qu'on a eu cette possibilité-là, à un moment donné, de ne pas être dans la nécessité, même si on a fait des petits boulots.
Ouais.
Mais on a pu choisir une profession artistique fragile et précaire, quand même réussir à se démerder et à prendre le temps de réfléchir sur notre condition quand d'autres font les 3-8 et tout. Tu vois. Mais il y avait un truc où c'était un mélange d'agressivité et en même temps de « je t'aime bien
».
Et je me suis dit « mais c'est trop long, je ne vais pas rentrer dans un débat ». Parce que comme tu disais, là j'avais... pas l'énergie pour lui dire alors tu sais en fait on est de ton côté et même beaucoup plus que tu ne le penses mais tu sais crois pas que parce que là on mange un croque madame en terrasse à Saint-Michel qu'on flippe pas de pas payer notre loyer que un tel allait pas aux ascédiques et machin tu vois et c'est pareil tu vois les gilets jaunes se battent contre des flics il y a des flics qui sont horribles qui font des bavures qui sont racistes tout ce que tu veux mais ce sont des ouvriers c'est-à-dire c'est des prolétaires qui se battent entre eux et en fait ça n'arrête pas le système. Et c'est terrible. J'ai fait un passage que tu as vu en stand-up sur ça, sur le fait que je dis
c'était
je veux faire la révolution,
drôle.
Mais j'ai la flemme.
Ouais, c'était super.
Parce que je suis vraiment dans un truc, je suis dans le 18e et tout, et vraiment, la misère sociale, je la vois. Et je suis un peu dans un truc de tant qu'ils font pas sauter le Panthéon, j'y vais pas. Parce que, en gros, si on va pas assez loin, on est juste sûr de se prendre une répression et de rien changer.
Moi, j'ai les boules s'ils font sauter le Panthéon quand même.
Ah, moi, j'ai les boules, mais je me dis, bah au moins. Ouais. Non, mais tu vois, le Panthéon, les banques.
C'est pas pareil.
Non, mais même l'Assemblée nationale.
Moi, j'ai beaucoup de mal avec l'idée de détruire la culture. Je trouve ça nazi, en fait.
Non, mais la culture, mais le Panthéon, je dis le Panthéon, c'est même pas ça. Tu vois, genre l'Assemblée nationale, des symboles de la République ou d'un truc, tu vois, comme on a pris la Bastille. Enfin, ça fait peur.
Ouais.
Mais tu dis, ok, dans ce cas-là, d'accord, je vois que vous êtes prêts à tout perdre. Tu vois. Et ce truc un peu d'entre-deux, de on gueule, on est dans une hystérie collective et tout, alors que les revendications sont légitimes, mais que parfois, malheureusement, on n'arrive pas à les entendre à cause de la forme, à cause de plein de trucs.
Ouais.
Et que je me dis, merde, en plus, dans l'eau, si d'un seul coup ça se castagne, je me prendrai une droite d'un gilet jaune parce qu'il pense que je suis un putain de nanti, qu'on n'a rien à foutre de sa condition.
Ouais.
C'est très effrayant, mais donc j'ai mis beaucoup de temps à dire ce que je voulais dire au final.
Non, mais je vois ce que tu veux dire.
C'est pour dire. Ouais, on n'a pas toujours le temps d'avoir le discours
non,
qui explique
sûr,
tout, tu vois.
Il faut, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire et c'est vrai qu'il y a un entre-deux entre le bourgeois pédant de l'île aux moines et l'illuminé de gilet jaune un peu complotiste qui va être là, bah, de toute façon.
Ouais. Mais lui, je lui en veux un peu moins parce qu'il n'a pas le temps, il a pas le temps de se poser.
Je lui en veux moins, mais quand même, ça m'affecte. Tu vois, par exemple, la dernière fois, je discutais avec un mec de la sécurité et puis rapidement, il a dit, oh, bah, ça vaut Macron. C'est les Juifs. Hein.
Ah bah oui, bah oui, c'est non mais ça.
Qui l'ont mis là. Hein.
Bah mais bah, c'est de l'ignorance, les trois quarts du temps.
Oui,
c'est l'ignorance.
Et c'est vrai que j'en veux pas, mais ça m'en fait chier de.
Ah bah ça
de
refroidit pas... la conversation
tu vois,
forcément.
C'est sûr que t'es là. Et j'essaye de lui dire, bah non, je vous assure que non. Il me fait, bah, je lui dis, je suis juive, je suis pas présidente de la République. Il dit, bah, c'est parce que vous êtes pas comme une vraie juive. C'est vrai, vous avez pas vu comme les vrais juifs, parce que là, je vais vous dire.
Moi, dans ma famille, moi, je suis d'origine juive du côté de ma mère et tout, et dans la famille du côté de mon père, j'ai entendu des gens qui me disent. C'est quoi, tu devrais dire que t'es juif?
Ouais.
Parce que pour le métier, c'est bien ça.
Bernstein.
Mais, non, mais en plus, tu dis, mais c'est à la fois mignon, horrible,
et
naïf.
Ouais.
Et de croire, et pareil, comme tu dis, mais après, ça, c'est des visions où il n'y a pas une remise en question de l'information. En vérité, vraiment, je ne peux pas leur en vouloir. Toutes les révolutions se sont faites par les bourgeois.
Mm.
Sauf que les bourgeois, c'est les hipsters dont tu parles en Bretagne qui ne sont pas instruits.
Ouais.
Et la révolution, ils la feront jamais.
Ouais.
Donc nous, on a abandonné en fait les prolétaires, parce qu'effectivement, c'est normalement les bourgeois intellectuels qui aient de l'argent ou pas, qui ont fait toutes les grandes révolutions qui ont changé nos civilisations. Mais les bourgeois sont incultes, donc ils n'ont plus la possibilité de lire des livres, d'avoir une vision du monde qui permet de dire c'est pas normal ce qui se passe. Et moi, dans les sphères que je côtoie, je vais faire changer les choses. Plus personne ne veut la faire parce que plus personne n'a même les outils intellectuels pour la faire. Et pour avoir grandi dans plusieurs milieux différents, en tout cas scolaires, et d'avoir fait une partie de ma scolarité dans le 16e, je passais pour le Che Guevara du 16e parce que, en gros, j'avais une conscience pas forcément politique, mais sociale en tout cas. Et j'adore l'histoire avec un grand H. Et j'étais mais effaré de voir justement des gens de mon âge, de 20 ans, nantis, qui avaient des vies incroyables, qui étaient incapables de raconter même l'histoire de France, même de voir qu'il y avait de la misère, qu'il y avait vraiment des gens qui souffraient, etc.
Ouais.
Et qui étaient complètement incultes, qui parlaient très mal le français, qui étaient en échec scolaire, mais de luxe.
Ouais.
Boîtes à bac qui coûtent des fortunes, où on finit par acheter le bac.
Bien sûr.
Et ils s'en sortent toujours, ceux-là, financièrement. Intellectuellement, c'est pauvre, c'est déplorable. Et c'est là où c'est compliqué. Et moi, je m'en veux parfois de ne pas être plus instruit, justement. Pour pouvoir moins réagir à mes instincts primitifs sociaux et pouvoir plus m'éveiller au point que je peux changer un peu plus les choses, le système ou lancer une révolution.
Bah, on essaie quand même de le faire, tu vois, aussi avec ce qu'on fait. Par exemple, moi, samedi dernier, pour mon spectacle, c'était pas complet la salle. Et je me suis dit, ah, j'ai envie que ce soit complet. Donc, on a fait au dernier moment une offre, tu vois. On a mis la place, elle est à 10 balles. On s'est dit, tiens, on fait un test, on met deux places pour 15 balles. Bah, comme quoi, les gens sont vraiment en galère de thunes parce que ça s'est rempli comme ça.
Bien sûr.
Et je me suis dit, putain. Et en fait, il paraît que Muriel Robin, en ce moment, c'est rempli à 50%, que c'est pas complètement
rempli.
Ah,
merde. Okay.
Et je pense que c'est le prix des places.
Bien sûr.
Je pense que les gens, en fait. Et je me suis dit, ah ouais, donc il y a une vraie crise économique de ouf. Les gens veulent sortir. Mais ils n'ont pas la thune. Et je me dis, si tu vois, je me suis dit, ça m'a donné envie de, si jamais je pouvais jouer dans un très beau théâtre, Bah ouais, d'avoir des places à 8 balles, tu vois. Et même en orchestre, en fait, à vrai dire. Je me dis, c'est ça aussi, la décision au-delà des paroles. Je me dis, putain, si demain je peux jouer au Théâtre de l'Œuvre et que les places dans l'orchestre, au lieu de les mettre à 30 balles, bah, je les mets à 8 balles. Mmh. Enfin, tu vois, je me dis, là, au moins, c'est un truc qui dépend de nous.
Bien
et
sûr.
Qui peut faire, essayer de faire...
Et voilà, pourtant, toi, on t'en voudrait pas parce que... T'as pas beaucoup de moyens, etc. Non. Mais je le voyais à Bercy, maintenant à, comment ça s'appelle, à Accor Hotel Arena.
Ouais.
J'avais un pote qui bossait là-bas il y a très longtemps. Et je disais, putain, mais pourquoi d'un artiste à l'autre, les prix, mais flambent.
Ouais.
Je disais, mais c'est les artistes et les prods qui choisissent le prix des billets.
Ouais.
Parce que moi, je crois que c'était la salle qui déterminait le prix des billets. Et en fait, c'est la notion d'offre et de la demande. Et par exemple, il m'avait parlé de Manu Chao. Il m'a dit, Manu Chao, il refuse que les places dépassent un certain montant parce que ça ne va pas. Voilà.
Ouais.
Et tu te dis, putain, ça c'est classe.
Ouais, ça c'est la classe.
C'est la classe,
tu vois. Et là c'est cohérent. Et là c'est cohérent.
Voilà.
Et ça, moi je respecte en fait. J'adore parce que je veux dire, dans les artistes, le nombre de nanas humoristes qui disent, ah, je suis féministe. Et moi je demande, est-ce que ce serait possible de passer dans ton plateau? Non, je pense pas. En fait, c'est complet jusqu'à 2022. Et t'es là, genre, ok, c'est pas grave. Sans citer personne.
Ouais.
Mais et résultat, alors que tu vois, je veux dire, Marina Rollman, c'est une vraie féministe parce que elle l'est sur France Inter, mais elle l'est vraiment dans la vie, dans sa curiosité, son affection pour les femmes en fait.
Toutes ses premières parties à Sophie Marie Larouille il y a pas longtemps,
et en fait elle me connaît pas et elle prend un risque, tu vois, parce qu'évidemment qu'il y a des mecs humoristes plus connus qui accepteraient de faire sa première partie, qu'elle a certainement plus vu, plus croisé dans des plateaux plus, mais en fait c'est ce truc où je vois son intention, sa cohérence avec son discours de se dire non, je vais quand même faire un peu de parité, je vais donner sa chance, et ça je me dis genre voilà la classe en fait, à sa mesure, c'est pas que du blabla. C'est elle le fait. Et oh, mon Dieu, c'est vraiment une très, 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 très petite minorité. Quoi.
C'est une petite minorité, mais il faut quand même en parler, effectivement, parce qu'on donne beaucoup la place à ceux qui n'agissent pas.
Ouais.
Et je ne m'inclus pas forcément dans ceux qui agissent. Mais c'est vrai que j'ai un peu ce truc-là de me dire, ok, avant de critiquer l'attitude des gens et tout, regardons si nous, on est cohérent déjà entre notre discours, notre parole, nos écrits, nos actes artistiques et notre comportement dans la vie. Quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que quand on voit des artistes, même comme Blanche, qui, alors qu'elle est au top du top, fait carrément des zéniths où elle reverse tout à une association, tu dis voilà, c'est ça pour moi être un artiste et changer les choses, c'est d'un seul coup utiliser sa notoriété à des fins beaucoup plus grandes
et
que
s'enrichir. Et encore ça, tu vois, même ça pourrait limite lui servir. Ça pourrait, tu vois,
oui, alors même que, d'un point de vue cynique.
Tu vois, mais le fait de prendre une première partie comme Douli, tu vois, et de ensuite l'aider à coécrire ses textes et la mettre en scène et la mettre en avant, c'est encore pour moi encore plus gratuit. C'est-à-dire que presque quand elle reverse son argent au sans-abri, tout le monde va trouver ça magnifique. Elle refuse Chevalier des Arts et des Lettres, c'est magnifique. Mais les trucs vraiment dans l'ombre que les gens vont pas comprendre que c'est trop obscur et qu'ils comprennent, et qu'en fait toi, en fait tu donnes de ton temps et du machin et que tu as le choix de pas le faire, que tu pousses une autre artiste, c'est pas populaire, mais en fait nous on sait que
non,
c'est
vrai, mais on sait ce qui est cool, c'est que ça existe. Et que mine de rien, je pense même à un lieu comme la Nouvelle Scène, à Jesse Varin, à des gens comme ça qui ont, à Yacine Bellous avec les soirées première fois, au-delà de l'amitié que je leur porte, il y a encore des lieux comme ça, il y a encore des gens comme ça. C'est juste qu'effectivement, c'est à nous du coup d'être les vecteurs de ça. Tu vois, là, c'est cool que ton podcast puisse avoir l'occasion d'en parler. C'est que en gros, il faut qu'on casse aussi ce système. Tu vois, on a passé aussi beaucoup notre temps là à se plaindre sur des comportements des autres. Et c'est un peu ce que je reproche dans les documentaires qu'on fait sur la banlieue, les cités, les magouilles. Tu dis, ouais, il y a aussi des initiatives de ouf, ultra positives. Des assos qui se sont formés pour créer des choses, pour le soutien scolaire. Il y a plein de trucs pour qu'on n'en parle jamais.
Ouais.
On veut toujours nous montrer la vision d'horreur absolue des cités et des initiatives négatives.
Ouais. Moi, j'adore bagnoler.
Non, mais tu vois, il y a un truc comme ça et je me dis, mais je suis. Je le dis alors que je le fais pas assez et pas...
Oui, il faut qu'on fasse attention sur le temps. Ah ouais. Bon, attends, je te pose des petites questions pour finir.
Vas-y.
Questions courtes, mais c'est vrai que c'est passionnant. Alors,
ce que tu m'avais demandé pour les chansons d'amour.
Oui, et les chansons, en fait, je les diffuserai à la toute fin.
Ok.
Et je
les gens vont se tirer une balle dans la tête.
Et tes comédies romantiques, tu m'avais parlé de Punch Drunk Love, bien entendu. Ouais. Et celle que tu m'as envoyée...
La Bonne Année.
La Bonne Année, je ne l'ai pas vue, j'irai le voir.
Voilà. Alors, en fait, j'ai failli mettre César et Rosalie. Je me suis dit, bon, c'est un peu trop connu. Et La Bonne Année, c'est dans les premiers films de Claude Lelouch. Et c'est quasiment mon préféré de Claude Lelouch. C'est avec Lino Ventura, Françoise Fabian.
Tu parles de Claude Lelouch, l'ami de Jean Dujardin. C'est pas Gilles ?
Là, je rigole. Donc, ça s'appelle La Bonne Année. C'est avec Lino Ventura, Charles Gérard, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui a fait beaucoup de second rôle avec Belmondo, et Françoise Fabian, entre autres. Et en gros, c'est...
Attends, Françoise Fabian, c'est la chanson.
et en gros c'est un film que j'adore parce que c'est un film qui arrive à mener deux genres en même temps, les films de casse, et j'adore les films de casse, de braquage de banque ou de bijouterie ou de trucs, et une histoire d'amour.
Ouais.
Et en gros, Lino Ventura fait du repérage pour faire un cambriolage dans une bijouterie de luxe à Nice, et juste à côté, il y a une boutique d'antiquaires qui est tenue par Françoise Fabian. Et en fait, à chaque fois qu'il vient pour faire ce repérage, il y a quelque chose qui l'attire vers cette femme.
Ça me donne envie de le voir.
Et donc, du coup, il va venir et tout va. Le prétexte va être la vente d'un petit meuble Louis XVI. Et il va s'instruire sur l'antiquité pour essayer de rentrer en contact avec elle. Et on parle de Lino Ventura.
Ah,
donc, on parle de quelqu'un qui est une espèce de monolithe un peu gauche. C'est un des plus beaux rôles qu'il ait fait parce qu'il montre une espèce de. Bah, un charme de dingue, une espèce d'insensibilité. Françoise Fabian, elle a la classe, mais laisse tomber.
Ouais.
Et t'es dans la comédie, t'es à la fois dans le casse, parce que le casse il est hyper bien monté, puis il y a une tension, parce que c'est un voyou. Et tu dis, putain, est-ce qu'ils vont être ensemble? Ils s'aiment tellement.
Ouais.
Et c'est, en plus, c'est un choc de milieu. Elle est de la haute bourgeoisie niçoise, et lui, bah, c'est un cambrioleur.
Le cinéma, c'est des histoires d'amour, quand même. Non, mais moi, j'essaye, des pages, d'écrire pour l'audiovisuel. En fait, je pense que l'amour, quand même, c'est quand même le truc un peu.
Et pour la mini-anecdote en plus. Ouais. Effectivement, tu me parlais d'un film romantique.
Ouais.
C'est un film super romantique. Et moi, ça m'a mis des tartes à différents âges et à différents âges de. Non. Je parle toujours de la bonne année. À différents âges, même de ma vie sentimentale.
Ah ouais.
C'est-à-dire que ça raconte exactement ce par quoi on passe dans un couple.
Mmh.
Et que si on s'aime, il y a vraiment rien qui peut t'arriver. Je dis rien du film parce que c'est un film aussi qui est intéressant parce qu'il raconte toute une époque. On traverse en fait de mai 68 jusqu'à l'héritage de mai 68. Le film commence sur une projection d'un homme et une femme dans une prison.
Voilà. Okay.
Et voilà, j'en dis pas plus sur ce film.
Mais je pense qu'on va tous aller le voir.
Et c'était un des 5 films de chevet que Kubrick présentait aux nouveaux arrivés dans son équipe pour dire voici l'exemple pour moi d'un film où la caméra est un personnage à part entière. Raconte quelque chose en plus de ce que racontent les acteurs. Donc voilà. Donc oui, j'adore ce film.
Ok, bon, on va tous aller le voir.
Et Punch Drunk Love aussi.
Punch Drunk Love, c'est trop beau. Paul Thomas Anderson. Et donc, alors, donc les questions. Moi, j'aime bien le questionnaire de Proust.
Mais
tu vas, hein, pardon. Vas-y. Donc, la qualité que tu préfères chez un homme.
La loyauté.
La qualité que tu préfères chez une femme.
Sa loyauté aussi.
Le principal trait de ton caractère.
Impulsif.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis.
Leur patience avec moi.
Ton principal défaut?
Impulsif.
Et ton occupation?
Non, susceptible. Susceptible.
Susceptible, moi aussi. Ton occupation préférée?
Regarder des films sur mon canapé.
Ton idée du bonheur?
Regarder des films sur mon canapé en pyjama avec ma meuf. Non, en fait, mon idée du bonheur, c'est des trucs très simples. C'est... J'adore regarder mon amoureuse en pyjama. Parce que tu dis, putain, c'est cool, on s'aime, on se trouve beau, alors qu'on est dégueulasse.
Ah, les pyjamas, tu rigoles. Moi, j'ai une passion pyjama.
Mais je trouve ça très érotique, le pyjama.
Ouais, bien sûr, c'est Albert Cohen qui est grand défendeur des pyjamas, déjà.
Ouais, je comprends.
Moi, un homme en robe de chambre, c'est... c'est un poème. quel serait ton plus grand malheur?
Mon plus grand malheur? Oh là là. Je crois que c'est de voir partir les gens qu'on aime sans avoir pu leur dire.
C'est clair. Si tu n'étais pas toi, qui voudrais-tu être?
Qui je voudrais être? Jean-Paul Belmondo, je crois que ça doit être pas mal.
Mm-hmm.
Même avec l'AVC.
Ouais. Où aimerais-tu vivre?
Où j'aimerais vivre? Je crois que je rêve d'Italie.
Ouais. C'est beau. Ta couleur préférée?
Le bleu. C'est très classique, mais le noir aussi, j'aime beaucoup le noir.
Ta fleur préférée?
Ma fleur préférée, la rose noire, la baccara.
Waouh! Ton oiseau préféré?
Le corbeau.
Oh,
ouais, c'est très paradoxal.
Mais
il y a un racisme anti-corbeau qui est nul.
Ouais.
C'est des animaux magnifiques, c'est très beau et c'est très intelligent. Moi, en fait, je suis très sensible. Je crois qu'en fait, quand tu disais les principales qualités, je crois que c'est l'intelligence chez un homme et chez une femme, l'intelligence en fait. C'est très charmant, l'intelligence. Chez un corbeau aussi. Non, mais c'est vrai, les animaux intelligents. Le corbeau.
Alors, il faut que je te présente mon chat, parce qu'il est...
Dans certaines croyances, ce sont les... Comme dans The Crow, certaines croyances, ce sont ceux qui transportent les âmes.
Oh, tu m'as tellement réconcilié avec le corbeau.
Oui.
Et enfin, ta devise favorite ?
Ma devise favorite ? c'est le truc. Faut regarder les étoiles, vise les étoiles, toutes ces merdes-là. Ma devise favorite ?
Si t'en as une, quoi.
Ouais, en fait, je me dis, faut frotter les silex.
Ah, c'est bien pour faire du feu ?
Ouais. Il sort toujours un truc. Une étincelle, un machin, un truc. Et puis, ça a été le début de beaucoup de choses, en fait, dans notre construction, tu vois. Et c'est une phrase, je sais plus quand est-ce qu'elle m'est venue ou si je l'ai lu quelque part et tout. C'est le mec, je sais pas si c'est le mot de Victor Hugo. Mais ouais, j'aime bien cette image de tu frottes les silex, quoi qu'il arrive, tu frottes les silex. Tu fais quelque chose, tu tailles quelque chose, tu vois, t'es.
Tu y vas.
Ouais.
T'es dans l'action,
ouais.
Ouais, c'est bien.
Alors que j'ai peur, putain de merde. Mais il y a un truc de. Tu vois, de.
Faut se lancer, faut le faire.
Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. C'est jouer à se mettre des coups de pied aux fesses et à se faire peur, en fait.
Mmh.
En fait, avoir mal au ventre, mais pour de bonnes raisons, quoi.
Mmh. Ouais, super inspirant. J'ai moins peur de faire ma première partie ce soir.
Mais ouais, tu vas tout déchirer.
Oh, trop gentil. Merci beaucoup, mais Nicolas. Non, merci à toi. Nicolas.
Et Puzzle sort le 29 octobre sur YouTube.
Tu fais bien, excuse-moi. Alors attends, on refait un tout petit tour actu. Est-ce que pour les gens qui veulent venir à la Projo, mais je ne sais pas si le podcast est encore sorti.
Non, elle n'est pas publique.
D'accord, elle n'est pas publique. Donc Puzzle sort, de toute façon, on le remettra évidemment dans tous les descriptifs. Ça sort le 28 octobre sur
29
YouTube.
Octobre.
29 octobre sur YouTube.
Voilà.
Donc il faut aller liker, partager.
Voilà.
Ok, allez voir. Et ensuite, on peut te retrouver aussi sur scène.
Sur scène, alors là, j'ai pas de date, j'ai pas d'endroit, mais je vais remontrer le bout de mon nez un petit peu plus. J'avais fait quelques scènes.
Ouais, le Comedy and Chill, c'était trop bien.
Ouais, j'avais fait Comedy and Chill, j'avais fait aussi le plateau là, je sais plus comment il s'appelle ce plateau, où c'était 3 fois 20 minutes, et j'avais fait 20 minutes.
Okay. C'était au le Jardin Sauvage.
Ouais, au Jardin Sauvage. Donc voilà, donc je vais, mais je fais ça un peu, je fais pas beaucoup de pubs dessus parce que je teste, parce que tout ça, mais oui, je vais être un peu
peut-être
plus présent.
Peut-être un jour une heure de spectacle de stand-up.
Peut-être, ouais. Dedo m'a lancé un défi. On était au Festival d'Avignon là cet été et il m'a regardé, il m'a dit, on dit que l'année prochaine t'as un spectacle. Et j'ai fait, j'ai mal au ventre, et voilà.
Mais c'est bien.
Ouais, frottez c'est la bonne raison d'avoir... Ouais, c'est ça, d'avoir mal au ventre.
Ok, merci.
Mais merci à toi.
Alors, les copains, est-ce que cet épisode vous a plu ? Est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé de vous brûler le menton avec un thermos de thé ? Ou non, vous êtes intelligent, vous savez comment ça fonctionne un thermos. Et oui, vous êtes intelligent, c'est pour ça que je vous aime. Et donc s'il vous plaît, allez regarder le court-métrage de Nico Bernot sur YouTube, Puzzle, et surtout, surtout, mettez à sac des chambres d'hôtel, faites caca sur des draps, s'il vous plaît, bisous. Touch now. Don't explain. There ain't nothing to gain. I'm glad that you're back. Don't explain. Quiet, baby, and don't explain. There is nothing to gain. Skip that little lipstick. Don't explain. You know that I love you and what love endures. All my thoughts are of you, for I'm so completely yours. Don't wanna hear folks chatter, 'cause I know you cheat. Right and wrong don't matter when you're with me, my sweet.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.